Ce podcast fait partie d'un cycle coordonné par les réseaux nationaux des maisons des sciences de l'homme. Les projets pratiques d'esquive des cours d'éducation physique et sportive par les élèves, stratégie, usage et mésusage des certificats médicaux, a été repéré par l'action scientifique InterMSH Sport et Société, pilotée par les réseaux. Merci beaucoup à Patrice Régnier d'être avec nous aujourd'hui. Patrice, qui êtes-vous et sous quel sujet travaillez-vous ?
Alors bonjour, je suis sociologue, maître de conférence à l'UCOBS de Vannes. Je suis membre du laboratoire VIPS 2 à Rennes, qui est donc dans le périmètre de la MSHB, et également membre du centre de recherche APCOS, qui lui est dans le périmètre de la MSH Ange-Gépan. Mes travaux portent principalement sur les interactions. Ces interactions peuvent être corporelles, peuvent être verbales, peuvent être interespèces humaines, transespèces également. Et je m'intéresse également aux travaux socio-historiques, notamment dans la logique de Norbert Elias.
Comment présenteriez-vous les projets de manière vulgarisée à quelqu'un qui ne les connaît pas ? Quels sont ses objectifs généraux, les problématiques et les méthodes déployées et les acteurs mobilisés ?
En fait, depuis 1989, le certificat médical qui permettait de se dispenser ou de se faire dispenser des cours d'EPS n'existe plus. Et à la place a été instauré le certificat d'inaptitude pour permettre en fait à l'enseignant d'EPS d'adapter ses cours, de les rendre accessibles à tous, de sorte d'être dans une EPS inclusive. Malgré tout, les certificats médicaux continuent d'être employés et ce faisant, ils montrent une certaine logique de tentative de recherche de bonnes raisons pour ne pas pratiquer. Alors ces bonnes raisons, elles peuvent être très très variées. Hein. Ça peut être des raisons liées à la corporéité, aux difficultés rencontrées, ça peut être lié aux croyances et lié éventuellement à la socialisation des parents qui ont peut-être un vécu difficile en EPS et qui du coup ont du mal à accepter que leurs enfants fassent la pratique ou fassent tout pour les en dispenser. C'est une problématique quand même qui est pas anodine dans notre vie moderne où la pratique, l'entretien de soi est devenue assez prégnante.
Quels sont les premiers résultats du projet ?
Dans l'absolu, on n'en a pas encore tout à fait, puisque le projet démarre. Pour l'instant, je ne peux me baser que sur mon expérience professionnelle antérieure de 18 années et les archives que j'ai récoltées durant ces années au travers de certificats médicaux, anonymisés bien sûr. Il y a aussi la pré-enquête que j'ai menée entre 2020 et 2021 auprès d'enseignants d'EPS qui ont bien voulu témoigner pour me permettre de commencer à structurer le projet et envoyer un certain nombre de certificats médicaux anonymisés aussi qui permettent d'avoir une première base de données. On a également lancé le premier questionnaire à destination des médecins et des enseignants d'EPS. Actuellement, les enseignants d'EPS sont près de 400 à avoir déjà répondu. C'est plus compliqué au niveau des médecins, ils sont que deux.
Les projets est-il interdisciplinaire ?
Alors, il est au sens où il inclut plusieurs maîtres de conférences et profs des universités en STAPS, Thierry Michaud, Stéphane Eas, pour ne citer qu'eux, au niveau des STAPS. Également, Sciences de l'éducation avec Teddy Mayeko. Et les réunions initiales ont permis d'élaborer le début de la recherche. Et à cette heure-ci, l'équipe est en cours de complétion, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques individus qui se montrent intéressés, quelques chercheurs qui sont les bienvenus par ailleurs.
Quelles conséquences votre projet peut avoir pour la société ? Est-ce que votre projet se base sur une recherche partenariale et participative ? Il y a-t-il une co-construction du projet avec les acteurs concernés ?
Il y a construction de fait et très précoce parce que quand j'ai commencé à me renseigner auprès des multiples professeurs d'EPS qui ont gentiment répondu, ça a permis de constituer déjà un certain nombre de questions pour les entretiens à venir et aussi pour le questionnaire qui a été lancé, puisque ça m'a permis de sortir un petit peu d'un vécu individuel pour rentrer sur quelque chose de plus collectif grâce à cette participation des enseignants d'EPS. De même, les premières réunions qui ont été mises en place avec les différents participants et aussi également Sophie Chat, qui est une personnalité du monde médical très très investie dans la lutte contre la sédentarité, ont permis d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion qui ne nous étaient pas venues de prime abord. Pour ce qui est des conséquences que ça peut avoir sur la société, typiquement, ce type de projet a vocation à essayer de résoudre une problématique. On l'a vu, la problématique de la santé est aujourd'hui suffisamment importante pour que la politique soit assez vindicative sur ces questions. Il faut bouger 30 minutes par jour. Et le PS, là-dedans, parfois pour certaines familles, c'est le seul moment de la semaine où il va y avoir une activité physique effective. Donc toutes ces mises en place de stratégies d'évitement de l'activité participent d'une forme d'exclusion finalement d'une pratique physique, l'exclusion de la présence en cours parfois, et puis l'exclusion de la notation. Donc une forme de disparition, une absence qu'il convient de comprendre et éventuellement d'essayer de maîtriser, voire de faire disparaître, si je peux me permettre.
Quelles sont les difficultés et les apports de ce type de recherche co-construite? Quel est le rôle du chercheur dans cette démarche?
Les difficultés sont liées principalement, comme souvent en sociologie, à l'accès au terrain. Bon, pour ce qui est des enseignants de PS, c'est pas compliqué, étant donné mon passif professionnel et ma progression personnelle scientifique. Et puis, il y a le terrain du corps médical qui est très, très difficile d'accès. Ils sont extrêmement sollicités par des organismes variés, par des étudiants de médecine qui veulent faire une thèse aussi, par beaucoup de choses qui fait que c'est très compliqué de les avoir. L'autre limite qu'on pourrait avoir également, c'est les académies, puisqu'à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on s'intéresse à ce que pensent les familles et ce que pensent les jeunes. Donc, il va falloir aller vers eux. Et là, en l'occurrence, si les académies ne nous laissent pas carte blanche, on ne pourra pas rentrer, c'est pas possible. On a la chance dans l'Académie de Rennes d'être soutenu par des IA IPR qui sont très, très investis dans cette logique de lutte contre la sédentarité et qui ont mis en place des outils avec Sophisha notamment. Mais voilà, les difficultés sont celles-là. Alors quels sont les rôles du chercheur dans cette démarche? C'est essayer de créer du réseau, de créer du lien, d'ouvrir des portes au travers de nos connaissances, hein, tous et chacun.
Comment souhaitez-vous valoriser cette recherche? Dans quelle sphère et quelle sera la suite du projet?
Déjà, il y a un ouvrage actuellement qui est envisagé pour valoriser le lancement de cette enquête et puis le point de vue des médecins qui sont investis dans ces questions-là. Il y a un article aussi qui a été accepté récemment autour de l'être absente aussi, que j'ai évoqué, sur la base des éléments déjà récoltés. Et puis, ce qui va être important, ce qu'il va falloir valoriser, c'est comprendre la situation, comprendre dans quel monde on vit, comment les élèves, les médecins, les enseignants de PS, leurs familles, à ces élèves, interagissent les uns avec les autres pour essayer, si possible, de résorber cette problématique. Alors, comment valoriser? C'est en faisant connaître à la fois le projet de recherche, mais à la fois aussi ses résultats. Ça, j'ai aucun doute qu'à partir du moment où on les aura obtenus, on va avoir à minima le soutien des enseignants de PS.
Quelle est la plus-value d'enregistrer ces podcasts avec les RNMSH? Qu'est-ce que ça peut vous apporter et qu'est-ce que vous a poussé à communiquer plus largement sur ces projets?
En tant que projet en cours de démarrage et vu l'importance sociale et sanitaire des questions liées à la santé des jeunes, toute occasion de montrer l'existence de ce projet est bonne, surtout si elle est soutenue par le Réseau National des Maisons des Sciences de l'Homme, parce que l'EPS participe de la formation individuelle. Souvent, le sport et l'EPS sont un petit peu mis de côté dans l'enseignement. Les sciences, les matières dites nobles sont souvent mises en avant. On peut penser au test PISA notamment, qui est un outil de concours entre les États, mais qui est limité à un certain nombre très très restreint d'éléments formatifs, alors que l'EPS en est exclu, l'art également, l'histoire, la géographie, j'en passe. Donc l'idée, c'est de faire comprendre que l'EPS, comme les autres disciplines, est une matière formative fondamentale dans l'apprentissage d'un enfant, d'un jeune, d'un adolescent et d'un futur adulte. Et l'enregistrement de ce podcast permettra de faire connaître cette recherche, éventuellement de faire savoir qu'à un moment donné, il va y avoir des résultats, que ces résultats pourront être intéressants pour l'école, mais aussi pour les familles. Et que les MSH soutiennent ce projet de recherche, c'est le signe qu'on est quand même sur quelque chose à la fois d'intéressant et de porteur.
Merci beaucoup. Ce podcast fait partie d'un cycle coordonné par le Réseau national des maisons des sciences de l'homme. Le projet a été repéré par l'action scientifique inter-MSH Sport et Société, pilotée par le réseau.